Dans la louange, on n'est pas là essentiellement pour chanter des chants, on n'est pas là essentiellement pour écouter la musique. Et c'est vrai que j'aime bien la bonne musique, j'aime bien ça. Mais soyons attentifs à ce que Jésus veut pour nous. Et tout à l'heure, c'est pareil. On a entendu une parole de Dieu par l'intermédiaire de Josine. Et merci Josine pour ce qu'elle est partie, je viens de l'avoir passée. Ouais. Elle est passée et si vous le voulez bien, à la fin de ma prédication, on va relire ce passage d'Ésaïe qu'elle a donné tout à l'heure. Elle va revenir, je vais lui demander si... Elle va revenir, je pense. Ouais, elle va revenir. Parce que, bon, peut-être qu'elle est partie bosser, non ? Non, je pense pas. Mais voilà, on relira ce passage de Josine. Pourquoi ? Parce qu'il va en droite ligne avec ce dont je vais vous parler ce matin. Donc vous voyez là, le thème de ma prédication ce matin, c'est « Et toi ?» Je t'interpelle ce matin. « Et toi ? Et toi ? Quelle est ta saison ?» On a parlé, Josine, elle a parlé des choses anciennes. Vous avez entendu ce qu'elle a annoncé tout à l'heure, les choses anciennes, et Jésus a de nouvelles choses pour nous. Et en ce moment, on prêche et on parle beaucoup de nouvelles choses dans l'Église. Et il y a pas mal de paroles qui sont données, pas mal de prophéties, de paroles de connaissances qui sont données parce que Dieu veut que l'on vive des choses nouvelles. C'est son désir, c'est ce que Jésus veut, l'ADN de Jésus, c'est des choses nouvelles. Il ne veut pas qu'on rentre dans des habitudes, il ne veut pas qu'on rentre dans une église qui ronronne avec un culte qui commence à 10h30, avec une demi-heure de louange, à 11h on fait quelques 2-3 annonces, le prédicateur est là jusqu'à midi moins le quart et après bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. C'est pas ça que veut Jésus. On a un Dieu qui veut que l'on vive des choses nouvelles. Il veut absolument que l'on puisse tous être des acteurs de ce qu'il a mis, ce qu'il a implanté. Et vous allez voir que dans toute mon intervention ce matin, je vais parler essentiellement de semences. De semences. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il a implanté quelque chose. Une œuvre qui était là. Et puis Jésus, à un moment, il a dit, et je ne vais pas faire une prédication ce matin sur la Pentecôte, ce n'est pas mon sujet. Je pourrais vous parler de la Pentecôte, c'est tout tracé. Demain, c'est le lundi de Pentecôte, qu'est-ce qu'on fait ? On prêche sur la Pentecôte. Mais Antonia, vous avez entendu la conclusion de son moment de louange ? Elle a dit, mais la Pentecôte, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours que tu dois avoir une langue de feu de Jésus, du Saint-Esprit au-dessus de ta tête qui te parle et qui te montre quelle est ta saison. La revoilà, Josine. C'est la surprise que je viens de dire. Alors, quelle est ta saison ? Je crois que tu vas devoir m'aider, Louis. Ah non, c'est bon, c'est parti. Enfin, moi, c'est parti sur ma tablette, mais pas sur l'écran. Tu vas m'aider, s'il te plaît ? Tu cliques ? Tu as juste à cliquer. Bon, je crois que... Un petit problème technique, c'est pas grave. Est-ce que tu peux revenir et puis essayer ? Parce qu'en fait, je vais travailler sur une pub que tout le monde connaît. Il y a une pub en ce moment qui passe à la télé. Et ce que je voudrais, c'est que quand maintenant vous allez voir cette pub à la télé, vous allez penser à Fred. Et vous allez vous dire, mais on a quand même un pasteur qui est capable de prêcher sur une pub. D'accord ? Alors on va voir si on est capable de la remettre. Voilà. Il y a juste à peut-être cliquer dessus et ça va partir. Vous la connaissez tous, enfin ceux qui regardent la télé, bien évidemment. Bon, ça cafouille ce matin, c'est pas grave. Vous savez, c'est la pub pour Intermarché où il y a un petit garçon qui vient voir ses parents et puis qui pose des questions existentielles en disant « Papa, maman, mais comment ils font les hippopotames pour se gratter ?» Et après, il retourne voir son père et puis il dit « Mais pourquoi on ne met pas des gros parachutes sur les avions ?» Et pourquoi les chauves-souris, est-ce que quand elles nous regardent dormir, est-ce que pour elles on est à l'envers ? Est-ce que, je ne sais plus, il y a d'autres questions, je l'ai regardé plusieurs fois cette pub, parce que bon là quand j'ai travaillé sur ma prédication, mais il y a plusieurs questions. Ah, avec un peu de son, vous allez voir. Ça, c'est la question piège. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ça y est, j'ai réussi à reprendre la main, a priori. Vous voyez cette pub, pourquoi elle m'a marqué? Pourquoi elle marque? Parce qu'on voit un enfant, d'une part, et on voit un enfant qui va voir ses parents, son père en l'occurrence, parce que vous avez vu qu'à n'importe quel moment, le petit haut, ça vous choque si je dis un petit haut? C'est une expression de Normandie, ça, le petit haut. Je suis normand, donc forcément, je dis petit haut. Et le petit haut, il va voir son père et, en pleine nuit et pour demander si un hippopotame, voilà, comment il se gratte. Après, vous avez vu, il l'interpelle, il lui téléphone, il est au travail, le père. Et donc, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, il interpelle ses parents pour savoir ce qu'il interpelle lui. Et cette pub, elle est vraiment importante parce que lorsque je dis quelle est ta saison aujourd'hui, j'ai l'impression que quand je discute avec quelques chrétiens que ce soit, alors c'est pas ici, hein, bien évidemment, c'est que dans les autres églises, mais je me rends compte que des fois, on est avec beaucoup de questions. Alors effectivement, on a besoin d'une réponse, on aimerait que Dieu nous donne cette réponse, mais parfois ce sont des questions qui servent à rien. Vous êtes rendu compte de ça ? On a spirituellement des questions, on va poser des questions soit au pasteur, soit à son frère, sa sœur, soit à d'autres personnes, etc. Et on pose des questions existentielles, on se dit mais pourquoi Dieu, trois points de suspension, avec des questions qui sont derrière, et bien souvent il m'arrive à moi de dire j'en sais rien. Tout simplement parce que je ne me suis peut-être pas posé la question, que je n'ai pas de réponse. Mais il y a aussi le principe de dire que c'est pas ça qui va changer ta vie spirituelle. Ne reste pas dans un état d'enfant spirituel à te poser des questions. Ne reste pas dans un état de cet enfant qui a besoin d'avoir des réponses pour des questions. Alors, je vais vous choquer dans ce que je vais dire, mais dans des questions parfois idiotes. Quand j'étais petit, on me disait souvent, et quand je posais une question de ce style-là, on me disait question idiote, réponse idiote, et on me faisait une réponse idiote. Mais elles ne sont pas idiotes, ces questions à cet enfant. Parce qu'il a besoin de réponses. Il veut savoir jusqu'où les chiffres vont. Et effectivement, on s'est tous posé cette question. Jusqu'où les chiffres vont? Et quelqu'un a une réponse à me donner sur ça? Ou jusqu'où les chiffres vont? Et vous savez que le pi 3,14 et machin, qui est capable de me dire combien de chiffres il y a derrière la virgule? Dernièrement, on m'a demandé, mais pourquoi est-ce que les dinosaures sont plus sur Terre? Est-ce que les dinosaures ont existé? J'aurais tendance à dire que oui, s'il y a des squelettes. Si on retrouve des squelettes, c'est que quelque part... Mais est-ce que c'est ça qui va te faire avancer ou pas dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Jésus-Christ? Est-ce que le fait d'avoir ta réponse va te donner cet effet de satiété? Vous savez, voilà, ça y est, je suis repu, j'ai ma réponse. Non, parce qu'une fois que tu vas avoir ta réponse sur ta question qui n'est pas existentielle, tu vas passer à une autre. Et puis tu vas retourner et tu vas tourner en rond comme ça. Parce que tu es là essentiellement avec des questions que tu te poses. Et ça te fait rester dans une saison, dans ta saison. Et en fait, ce que Jésus veut, c'est que tu puisses changer de saison, que tu puisses avoir un cycle et qui te permet d'évoluer et de grandir spirituellement. Si vous êtes d'accord avec moi, dites des amen quand vous voulez. Alors, quand vous voulez, hein, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Alors, voyez ça? Vous savez ce que c'est? C'est un potager. Et vous savez quoi? C'est mon potager. Et quand je vous disais que j'allais parler de semences, c'est que vous allez comprendre pourquoi il y a des saisons. Pourquoi Fred, il vous montre son potager? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on est après les saints de glace. Tout le monde a entendu parler des saints de glace. Et qu'après les saints de glace, on peut commencer à planter. Parce qu'il y a certaines plantations qui ne supportent pas le gel. Des saisons. Et pourquoi je vous montre mon potager? C'est parce que je suis absolument nul en potager. Je n'y connais rien. Sauf que, dans ma famille... Ils font des potagers et ils mangent des trucs qui sont vachement sympas et qui ont du goût, mais qui est bon. Ça change des laitues de serre qu'on achète chez Auchan. Vous savez? Et donc ma famille fait des potagers, mes frères font des potagers. Dernièrement, je suis allé chez Antoine et Christiane, et Christiane, elle m'a fait visiter son potager. Christiane, elle plante et elle récolte des choses. J'ai des amis qui font des potagers. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour quelqu'un qui est inculte en potager, qui n'y connaît absolument rien, avant de pouvoir faire ce que vous voyez là, il a fallu d'abord que je puisse travailler la terre. Il a fallu d'abord, avant toute chose, que j'aille sur Internet et que je commence à regarder des vidéos YouTube, que je commence à acheter des bouquins pour dire mais comment on plante, à quelle profondeur, comment on arrose, comment ceci, comment cela, et qu'est-ce que je vais mettre dans mon potager. Et là, vous voyez que j'ai mis des tomates, j'ai mis... Non, vous ne voyez pas parce que vous ne pouvez pas le voir. Pourquoi? Parce que la saison n'est pas encore arrivée, ce n'est pas encore la saison des récoltes. Mais si moi je vous le dis, vous allez me croire sur parole. Si je vous dis que là en bas à droite, vous avez un mélange tomate, œillet d'Inde et basilic, parce qu'on m'a dit, que le trio tomate, œillet d'Inde, basilic, ça marche top. Et que vous allez avoir de belles tomates. Donc, j'ai fait le trio tomate, basilic et œillet d'Inde. Et puis en haut, quand on remonte, eh bien, il y a des salades. Sauf que les salades, il y a des oiseaux dans le ciel. Et que les oiseaux aiment bien la salade. Et là, je suis en train de vous enfoncer et vous êtes en train de vous dire, mais le mec, il est en train de nous faire une prédication sur son potager. Non, c'est pas ça que je veux vous dire. C'est que vous allez voir qu'ensemble, on va lire tout simplement la parabole du semeur. Pardon ? J'entends pas, t'as ton masque, je dis sur les lèvres. Oui, je vais y venir. Tu vois, il y a plein de trucs. Avec un potager, on fait des prédications de 3 jours. Ça va, vous avez pris vos pyjamas parce que soit on dort là. Ouais. Matthieu 13, 3 à 9. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Là, on parle de Jésus. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Le semeur, c'est moi. Oups, faut pas que je tape sur le micro, pardon. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. C'est ce qui m'arrive avec mes salades. Et mon poivron. Mon poivron, il est un petit peu tordu et j'ai l'impression qu'il y a un oiseau qui l'a picoré. Donc mon poivron, il est naze. D'accord ? Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle se trouva... Elle ne trouva pas, un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Ça va, vous êtes toujours avec moi ? Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain, alors on pourrait dire un grain rapporta 100, un autre rapporta 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tout le monde la connaît, cette parabole du semeur. On la connaît tous, en tout cas tous ceux qui lisent la Bible ou qui connaissent un petit peu leur Bible. On connaît tous la parabole du semeur. Dans cette parabole, en 4 passages, Jésus a résumé tout le principe d'un potager, tout le principe de ta vie, tout le principe de la vie d'un homme ou d'une femme qui est aujourd'hui, qui vit sur cette terre. C'est qu'à aujourd'hui, à partir du moment où tu as une semence qui est plantée en toi, il va falloir que tu puisses avoir et attendre des saisons. Parce qu'il y a des saisons qui vont faire que dans ta vie, tu vivras des choses plus ou moins sympas. Mais Jésus a des saisons, il te réserve des saisons pour toi. Et pas plus tard qu'il y a 5-10 minutes, Christiane, elle nous a parlé d'une saison. Le papa de Prudence a changé de saison. La parabole du semeur, elle est importante parce qu'elle nous montre qu'en fonction du travail qu'on peut accomplir, ou que ce soit en nous ou par rapport à quelqu'un qui nous est proche, on peut très bien avoir un certain succès ou pas. On peut avoir du succès. Hier, j'ai écouté une prédication sur quelqu'un qui a été récompensé par YouTube parce qu'il a atteint 500 000 abonnés. C'est quelqu'un qui est donc un pasteur et il a reçu un très beau trophée de la part de YouTube en disant voilà, vous avez 500 000 abonnés sur votre chaîne, super, bravo, vous avez. Mais il dit mais moi je m'en fiche de ça, ce que je veux c'est avoir du résultat derrière. C'est le fruit. C'est pas le but d'avoir 500 000 abonnés sur YouTube qui m'intéresse. C'est que ce que je suis en train de vous prêcher ou vous partager ou vous apporter ou vous apprendre, que ça puisse porter un fruit en vous. que vous puissiez reconnaître et voir que Dieu a un fruit, Dieu veut du fruit pour nous, pour chacun, et vous verrez, ça va être la suite de ma prédication. C'est le moment de la prédication où je peux vous reposer la question. Et toi, quelle est ta saison ? Est-ce que, et c'est vrai qu'on ne se connaît pas tous ici, parce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, peut-être que je vous choque ce matin. Peut-être que, voilà, vous vous dites, mais il est un petit peu dans tous les sens. Non, je ne vais pas dans tous les sens. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous dans la même saison. Je suis persuadé qu'ici, il y en a qui sont dans un hiver spirituel. On voit la neige qui tombe. Des fois, on le voit dans les yeux, on voit la neige qui tombe. Vous parlez avec quelqu'un et vous voyez que spirituellement, il n'est pas en forme et qu'il a besoin peut-être d'une parole de réconfort de votre part. Parce que vous n'êtes pas dans la même saison que lui et vous devez vous adapter à sa saison et faire en sorte que lui puisse peut-être connaître le soleil qui est dans votre saison spirituelle. Ah super, Jean-Tony avec moi. Alors maintenant, vous savez quoi ? Ben dans la parabole du semeur, Jésus derrière, il donne l'explication. Donc on va la lire, donc on passe de 9, on va passer à 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Il y a deux points cruciaux que je vais souligner dans l'explication de Jésus. Verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, première chose que je veux souligner, et ne la comprend pas. Retenez bien ça. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui est semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. La semence, elle est restée le long du chemin et elle n'a pas trouvé une terre fertile pour pouvoir aller mettre ses racines bien profondément. Et puis, eh bien, est arrivé ce qui est arrivé. Les oiseaux du ciel sont arrivés, ils ont mangé les graines. C'est toujours rageant quand vous avez les étourneaux qui viennent et à un moment donné, j'ai mis quelques graines pour un peu, vous savez, des fois la pelouse, vous avez des trous, vous avez besoin de remettre un peu de graines pour que ça, voilà, ça revienne bien vert. Et puis, aussitôt que vous avez mis les graines, vous avez les oiseaux qui arrivent et puis qui mangent les graines de votre pelouse. En fait, les oiseaux ne laissent même pas le temps à la graine de pouvoir mourir et pouvoir faire ses racines dans la terre et pouvoir grandir. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens comme ça et on perd des fois notre temps. On a une énergie qui est là, on met notre énergie parfois pour quelque chose qui est futile. Alors bien évidemment, Jésus aimerait bien que tout le monde puisse le connaître. Mais vous avez des personnes qui sont vraiment butées contre Dieu, qui, vous aurez beau leur dire quoi que ce soit, et, il ne se passera rien parce qu'il n'y a pas une terre fertile qui est là. Mais est-ce que toi déjà, tu es une terre fertile ? Est-ce que tu es prêt à accepter tout ce que dit la Bible ? Est-ce que tu es prêt à dire oui, la Bible est la parole de Dieu, oui, Jésus est le Fils de Dieu, oui, il s'est passé pas mal de choses, et Jésus a mis une œuvre, et tout à l'heure quand je parlais de l'œuvre, j'ai même pas fini cette pensée, c'est que Jésus a bien dit, voilà, moi j'ai implanté l'œuvre, je dois retourner auprès du Père, et c'est là où on arrive à la Pentecôte, hein, attention, hein, et il dit, je vous envoie le Consolateur. Et il a dit ça à qui ? Il a dit ça à tous ceux qui étaient dans une terre fertile et qui ont pu avoir une semence qui était là. Et à force de côtoyer Jésus, la semence a germé, a germé, a germé. Et ils ont reçu le Consolateur. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les a guidés, les a dirigés et a fait en sorte qu'encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après la venue de Jésus, eh bien, on soit tous là ici réunis. Et là, je devrais au moins avoir deux Amen. Quand j'ai prêché il y a un mois de ça, j'ai surpris certaines personnes parce que à la fin de ma prédication, j'ai dit on ne plaisante pas avec Dieu. Et je l'ai dit 3 ou 4 fois d'affilée et j'ai fini ma prédication sur on ne plaisante pas avec Dieu. Et plusieurs personnes sont venues me voir en disant mais Fred, quand tu as dit on ne plaisante pas avec Dieu, ça m'a... Il y a des personnes qui sont venues dire ça. Et effectivement, si tu es aujourd'hui dans un univers spirituel, ne reste pas dans un univers spirituel. Et dans l'Apocalypse, on peut le lire. Il y a Jésus qui dit, voilà, soit tu es froid, soit tu es bouillant. Mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et ça choque, ça. Souvent, ce verset, il choque quand on... Et là, je sens que... Ça va? Vous êtes toujours avec moi, là? Ouais. Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas de froid. Au... Il veut vraiment... Il veut pas de tiède, pardon. Il veut vraiment qu'on soit bouillant pour lui. Si on est froid, eh bien, on a la possibilité de pouvoir côtoyer des personnes qui sont, elles, bouillantes, pour pouvoir, dans leur saison, venir réchauffer la saison dans laquelle je suis. On continue. La suite. Donc, vous vous souvenez du premier point que j'ai donné tout à l'heure? L'homme qui ne comprend pas ce qu'on lui dit. On continue. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ce passage-là, il est hyper important, oui, parce que toute la parabole ici est importante, mais elle marque. Parce qu'aujourd'hui, on voit ça, on le voit quasiment quotidiennement. On voit des personnes, à partir du moment où ils ont un petit bibi, un petit bobo, eh bien, ils abandonnent Dieu, on ne les voit plus à l'église. Pourquoi? Parce que même s'ils ont accepté la parole de Dieu avec beaucoup de joie dans leur cœur, ils ne sont pas allés chercher profondément dans la Bible. Et au moindre petit truc, ce soit une petite dispute dans l'église, parce qu'il y en a, alors pas ici, il n'y en a pas ici dans l'église, mais dans les autres églises, il peut y avoir des disputes. La moindre petite dispute, la moindre contrariété, le fait que le pasteur ne mette pas de cravate, des fois il y en a qui quittent l'église parce que le pasteur n'a pas mis de cravate. Tant pis pour toi. C'est... Il faut absolument qu'on puisse prier tous pour avoir une onction nouvelle, avoir quelque chose, une onction fraîche. Vous savez, la Bible, elle est tellement rassurante. Quand on lit la Bible, il y a un phénomène de rassurance. Ça se dit, ça? Ouais, il me semble que ça se dit, la rassurance. Il me semble. Bon, bref. Je l'ai inventé. Si c'est pas... D'accord? M'en veuillez pas. Je viens d'inventer un mot, la rassurance. D'accord? Bon, hier, il y a Antoine qui nous a inventé un mot aussi, donc j'ai le droit aussi d'inventer des mots. Antoine, il a le droit de le faire, pourquoi pas moi, quelque part. Mais... La Bible, elle est là pour te faire du bien, elle n'est pas là pour te donner, pour te mettre des coups sur la tête en disant « Oh, vas-y, vous connaissez l'histoire du fou ?» Vous savez, l'histoire du fou qui se donne des coups de marteau sur la tête et il y a l'autre qui lui dit « Mais pourquoi tu te donnes des coups de marteau sur la tête ?» Ben, il lui répond tout simplement « Parce que quand j'arrête, ça me fait du bien. » C'est pas ça la Bible, elle n'est pas là pour te taper sur la tête, elle est là pour te rassurer, elle est là pour te faire du bien. Jésus te veut le meilleur dans ta vie, il le dit dans Jérémie. Il dit qu'il a des plans de bonheur pour toi et pas de malheur. Alors pourquoi on se lamente? Pourquoi est-ce qu'on est là à dire « mais oui, là, j'irai peut-être à l'église dimanche, Dieu voulant ». Mais oui, Dieu veut que tu ailles à l'église. Mais oui, Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Dieu veut que tu lui parles. Dieu veut que tu le pries. Dieu veut que tu le chantes. Dieu veut ta vie, tout simplement. Pourquoi? Pour te faire du bien. Être chrétien, ce n'est pas une souffrance. Ça peut l'être. Mais c'est pas, on n'est pas à dire, mais on a un Dieu qui est un bourreau. Vous savez, quand on était enfant, moi, ma mère, elle me disait ça, quand je me faisais mal, le petit Jésus, il t'a puni. Dernièrement, j'ai fait ça à la maison, je ne sais plus qui s'est fait mal à la maison, j'ai dit, petit Jésus, il t'a puni. Ils m'ont tous regardé, là, j'ai dit une bêtise. Je plaisantais, bien évidemment. D'accord. Ou le petit Jésus dans la crèche aussi, vous savez, le petit Jésus. Bon, ça, j'ai rien contre les crèches, mais bon. Jésus est plus grand que ça. Il est plus grand que ça, vous savez. Mais si vous saviez, si on pouvait donner tous ici, ne serait-ce qu'un seul témoignage de ce que peut faire, ce que fait ou à ce qu'a fait Jésus dans nos vies. Qui a une vie où Jésus n'a rien fait? Vas-y, je vais prier pour toi. Non? Et qui a une vie où Jésus a fait quelque chose? Donc je prêche à des convaincus. Vous êtes tous convaincus? Alors dites amen! Je suis excité ce matin, non? Ça se voit? J'ai eu un bon moment de louange. Merci l'équipe. C'est de votre faute. Vous m'avez mis de l'essence là. On continue. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui, les soucis du siècle et la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. On monte crescendo, là. On monte crescendo. Je vais pas non plus en parler pendant des plombes de ça, de ce passage. Mais juste une chose, rappelez-vous que ce n'est pas au monde de rentrer dans l'Église, c'est à l'Église d'aller dans le monde. J'arrête là. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Vous savez, on revient au point de tout à l'heure. Là, on nous dit qu'il la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. On n'a pas de compétition ici. Vous savez qu'il y a des très grands évangélistes, je pense par exemple à Reinhard Bonnke ou Billy Graham, des gens qui ont amené des millions de personnes dans le royaume de Dieu. Et effectivement, c'est beau quand vous avez David Wilkerson, parce que je connais Wilkinson aussi. Mais David Wilkerson, ce qu'il a fait, moi je suis allé dans son église à Times Square à New York. Purée, mais quand vous voyez l'église, ce sont des gens qui, oui, ont eu une œuvre qui est magnifique. Mais c'est pas parce que eux ils ont amené des millions de personnes à Jésus-Christ que toi, parce que tu vas en amener une, tu es moins bon que Reinhard Bonnke. Parce que Jésus, il est là, il voit ce que tu fais pour lui. Il dit, ok, ben je vois que tu as envie de donner ce que tu as. Ce bonheur que tu as d'être avec moi, et ben je vois que tu as envie de le partager. Hier encore, ben, y a Thierry qui a vécu des choses dans la rue. Ils sont allés évangéliser. C'était Hénin Beaumont, Thierry, hier, c'est ça? C'est Hénin Beaumont que tu es allé hier? Comment? Billy Berclos. Et ils ont vécu des choses. Parce qu'on a un Dieu qui agit encore aujourd'hui, hein, un Dieu il a envie, mais il trépigne, moi je suis sûr. Vous savez, ce verset, dernièrement, on m'a expliqué un verset de la Bible et je le vois complètement différemment. Vous savez, quand on cite souvent, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom et sont dans l'unité, je suis au milieu d'eux. Vous savez, ce verset, tout le monde le connaît, on aime bien ce verset. Sauf qu'un jour, moi, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, mais attends Fred, il faut savoir que quand Jésus dit, je suis au milieu d'eux, Jésus trépigne. Jésus a la joie dans le cœur et il est là, il dit, mais oui, moi je veux être avec eux, je veux être là. Et maintenant, quand je lis ce verset, quand je cite ce verset, moi j'imagine Jésus en train de dire, ouais les gars, je suis avec vous, wow, on y va. Jésus, il n'est pas là pour dire, bah oui, parce que vous êtes trois, je suis venu, parce qu'il paraît qu'il fallait que je sois là parce que vous êtes trois. Non, vous ne pouvez pas être deux, là, ça m'aurait fait un peu de repos, j'aurais pu rester là-haut. Non, ce n'est pas comme ça que Jésus vit. Ce n'est pas comme ça qu'il a cet ADN qui est en lui. Il veut que l'œuvre qu'il a semée, qu'il a commencée, eh bien qu'on puisse la continuer. Et en fait, il voit, et c'est là où l'Église est importante, et on la vit, ne serait-ce que là, l'Église. Vous savez, les gens qui critiquent en disant « Ouais, de toute façon, moi, je regarde les cultes sur Internet parce que bah, l'Église, c'est démodé, machin. » Oh, Jésus a dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Toi, si tu es tout seul devant ton écran, devant Internet, est-ce que tu es à deux ou trois? Alors oui, alors il y en a qui vont dire, bah oui, par les réseaux sociaux, on est ensemble, mais c'est pas parce que physiquement, mais on est quand même ensemble. Puis il y a le cœur, Jésus voit le cœur, si on est en unité avec les autres. Oui, oui. Non, Jésus, il veut qu'on ait cette communion fraternelle. Pourquoi? Parce qu'il a mis plein de choses en place, il a mis plein d'outils. L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est quoi? C'est le cœur, c'est ce qu'il y a dedans. C'est pas un bâtiment, on s'en fout d'un bâtiment. Si vous voulez, la semaine prochaine, on fait le culte dans le jardin. Ou sur le parking, hein. On vire toutes les voitures, on fait sur le parking. Hein. Bientôt, il y a la fête de la musique, on va faire ça dans le... Allez! Non, ce que Jésus veut, c'est un cœur. Un cœur, c'est l'épouse. L'épouse, on en a parlé il y a peu de temps. Jésus veut venir chercher son épouse. Et l'épouse, ce n'est pas un bras ou ce n'est pas une main. Vous imaginez, l'épouse, c'est une main. Et il va se marier qu'une main. Non! Il se marie avec l'épouse tout entière, c'est-à-dire les pieds, les jambes, le torse, la tête, les bras, tout. Il veut une épouse qui est complète. Jésus veut ça. Et pour ça, il faut qu'on soit tous dans la même saison. Il faut qu'on soit dans un été spirituel, avec du soleil qui nous réchauffe le cœur, avec vraiment cette niaque pour Dieu. Là, vous dites amen quand vous voulez, hein, parce que je suis le seul à le dire. Voilà. Allez, je vous montre un arbre. Regardez. C'est beau, hein? Qui est capable de me dire ce que c'est comme arbre? Bon, celui-là, on devrait le reconnaître à peu près. Bravo, c'est un cerisier. Pourquoi? Parce que vous êtes à minima connaisseur. Il y en a certains ici, Bon, moi, ça va, je sais reconnaître un cerisier. D'accord? Je reconnais plus facilement les oiseaux que les arbres. Mais bon. Mais je sais que les petites fleurs blanches comme ça, je sais que c'est un cerisier. Oh, je sais, oui. Mais il y en a qui n'y connaissent rien et il va vous dire, bah, c'est un arbre. Avec des branches. Bon, il y a des fleurs. Donc là, on est capable de détecter la saison. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi pour dire qu'on est en plein hiver sur cette photo? Non? Est-ce que pour vous, on est en plein été sur la photo? Non? Et vous voyez, rien qu'avec un arbre, on est capable de déterminer la saison. Donc quand je te regarde dans tes yeux et que je viens de voir, parfois je suis capable de détecter ta saison, rien que à ta façon d'être, à ta façon de parler. Et alors, pour les incultes, on va laisser de côté tous ceux qui ont reconnu le cerisier. Avant, j'avais un pasteur, il s'appelait Daniel Cerisier. C'est vrai en plus. J'étais super copain avec ses jumeaux. Bon, bref. Il y en a certains, on va leur montrer une feuille. Tiens, si j'aurais dû commencer par ça. J'aurais dû d'abord vous montrer la feuille. Et là, et vous m'auriez dit... Alors, il y en a peut-être un petit peu moins qui m'auraient dit, oui, c'est une feuille de cerisier. Mais pourtant, il y en a qui s'y connaissent, qui sont capables de dire, une feuille, c'est un cerisier. Moi, j'ai mon ami Patrice Wills, il est capable de me reconnaître un arbre. Voilà, il est comme ça. Par contre, si je vous montre carrément le fruit, ben, il est capable de me dire, écoute, Fred, c'est des petites boules rouges. Non, c'est des cerises. Et c'est là où ben, votre fruit, il est là, il est existant. Et vous savez quoi? On reconnaît un arbre à ses fruits. Tout comme on reconnaît un ministère à ses fruits. Tout comme on reconnaît un talent à ses fruits. Moi, aujourd'hui, si vous me donnez un archer et un violon, je vais faire sonner le violon, mais je n'aurai pas un beau son, je sais comment ça marche. Mais par contre, vous filez un archer, un violon à Esther, eh ben, elle fait sonner son violon. Par contre, si je lui file ma guitare, je ne sais pas, peut-être qu'elle sait jouer de la guitare, j'en sais rien, mais elle ne va peut-être pas savoir faire sonner ma guitare comme il le faut. D'accord? Alors, on va compliquer le truc un peu. Celui-là, bon, il y a le fruit, hein. Imaginez-le sans fruit. D'accord? Non? Alors, je vais vous le dire. C'est un cognassier. Et quel est le fruit du cognassier? Le coin. D'accord? La feuille du cognassier. Il n'y a pas de gros mots dans ce que je dis. C'est son nom, le cognassier. Cognassier. La feuille, si je vous la montre, il y en a plein qui m'auraient dit, oh bah oui, c'est un cognassier, Fred, maintenant que je vois la feuille. Ouais. Par contre, quand on montre le fruit, effectivement, bah, on est capable de dire, oui, ça, c'est du coin. C'est du coin. Et il n'y a rien... Qu'est-ce que c'est bon, la confiture de coin? Oh, vous aimez ça, la gelée de coin? Wow. Et vous avez déjà essayé de cuire un coin? C'est hyper dur à cuire un coin. Il faut la machine qui va, parce que ça met des heures. Avant d'avoir une gelée de coin, ça met des heures à cuire. Pourquoi je vous dis ça? Mais tout est spirituel dans ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas là pour vous montrer, pour vous amuser des choses. Je ne suis pas là pour m'amuser, je suis là pour vous montrer que les saisons de votre vie spirituelle, elle est importante. Déjà, le fait d'accepter Jésus dans votre vie, c'est important. Il faut absolument que vous acceptiez Jésus dans vos vies. Des fois, on a du mal à aller parler à des gens, d'aller évangéliser, etc. Je parle pour moi parce que voilà, je me connais, mais j'ai cette facilité. Alors, pas d'aller dans la rue taper sur l'épaule des gens, pas mon truc. Mais par contre, voilà, le moindre truc, la moindre phrase, le moindre mot, je vais jouer dessus. Que ce soit une caissière chez Auchan, n'importe où, je suis capable, sur un seul mot, de partir et de partir dans une discussion spirituelle. Et ce que j'ai envie, moi, et ce que je me mets en tête, c'est que quand je parle à des gens, c'est de leur dire « Oh, ce que j'ai là, c'est super. Oh. » Et voilà, il faut que vous le goûtiez parce que c'est super. Et c'est ça l'évangélisation. C'est pas de dire oui, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Non, c'est de montrer ce que tu as envie, ce que tu as là. C'est de montrer réellement ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Vous savez que le témoignage, c'est 90%, je crois que c'est 90 ou 95% de non-verbal. Votre témoignage, il commence d'abord par qui vous êtes et ce que vous transpirez avant d'être les mots que vous allez prononcer. Avant même de citer le nom de Jésus-Christ, les gens sont capables de voir que vous êtes chrétien ou pas. Et je l'ai vécu, je vous assure, je l'ai vécu. Un jour, je commence un nouveau travail, je vous en ai déjà parlé de ça. Je commence un nouveau travail, j'arrive au bureau, et je fais connaissance de l'un de mes nouveaux collègues qui était là, et on s'est reconnus. Je vous assure qu'on s'est reconnus. On ne se connaissait pas, mais on a su dire, oh là, on a un truc en commun, toi et moi. Et on a commencé à se poser des questions et on s'est vu, on a commencé à se dire, pour ceux qui le connaissent, c'est Pascal Portebois. Et il dit, oui, moi je vais à l'église. Je dis, moi aussi. Il me dit, tu vas où à l'église? Je dis, je vais au phare. Oh, je connais bien Antoine Nocek, je connais tout le monde. Je dis, oui, mais donc toi tu vas où? Il dit, moi je vais à Mons. Et on s'est reconnus rien que parce que mon esprit a communiqué avec l'esprit qu'il avait dans lui et nos esprits ont su dire, ok, vous êtes du même ADN. Allez, je vais bientôt m'arrêter parce que j'ai plein. Vous avez vu, je suis excité comme une puce là. Il faut que j'arrête. 1 Corinthiens 3, 6 à 8. J'ai planté. C'est Paul qui parle. J'ai la glotte. Bon. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. Là, je sais que je suis en train de faire mal à certains. Mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Je la refais. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Pourquoi je cite ce passage-là? Tout simplement parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes et il y en a certains qui sont allés jusqu'à me dire « Mais moi, j'ai le désir du résultat. » Je me mets une pression telle que je veux le résultat, je veux voir le résultat. C'est-à-dire qu'ils sont capables de, parfois, harceler des personnes en disant « Ouais, il faut que tu crois en Jésus, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. » Ils vont les marteler, etc. jusqu'à ce que, mais peut-être que jamais. Et en fait, les gens se mettent une pression en disant « Mais moi, je veux voir le résultat. » Non, ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible, elle te demande juste de planter ou d'arroser, mais bon. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est pas toi qui fais croître. Le résultat, c'est Dieu qui va le mener à bon port au moment où Dieu l'aura voulu. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Il faut qu'il y ait une constance dans ta vie spirituelle. Tu dois être constant. Même s'il y a des cycles, et on a tous des cycles, on a tous des périodes de notre vie qui sont un petit peu moins rigolotes que d'autres. Regardez ce qui se passe avec Prudence. Je ne veux pas la citer en exemple, mais quelque part, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, le fait de perdre un papa, ça fait mal. Ça fait mal. Mais je me souviens d'un témoignage, c'est à l'époque où on était dans une autre église, et le pasteur d'Asbrook est subitement mort, il a fait une chute en montagne. Ouais. Il part avec ses enfants, il dévisse, il chute, il meurt. Le pasteur de l'église. L'église se retrouve sans pasteur. Accident, vous allez me dire, qu'on aurait pu éviter, mais bon, c'était peut-être le moment de Dieu, c'était le temps de Dieu, la saison. Et je me souviendrai toujours du témoignage de sa femme qui a dit, lorsqu'on a appris la nouvelle avec mes enfants, on s'est réunis et on a loué Dieu. Et là, vous dites, waouh, waouh. C'est peut-être pas forcément ce que moi j'aurais fait. Hein. Elle a loué Dieu avec ses enfants. Ils ont loué Dieu. Ils venaient d'apprendre la mort du papa et du mari. Et ils ont loué Dieu. Pourtant, la saison n'était pas propice à ça. Mais pourtant. Je vais finir avec cette... J'en ai une avant, mais on l'a... Voilà, elle est passée. De Gandhi. La fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la semence. Vous savez que j'aime bien les citations. La fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la semence. Pour qu'il puisse y avoir quelque chose qui germe dans ta vie, il faut que la graine meure. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes encore à l'état de cette graine. Non, pas ici, pas dans cette église-là. Dans les autres églises, il y a certaines personnes qui sont encore à l'état de graine et qui ne veulent pas laisser la graine mourir. Et pourtant... Je pense qu'on imagine très facilement, tous, autant qu'on est, le cycle d'une graine. La graine, elle va, l'opercule va s'ouvrir et vous allez commencer à avoir une petite pousse qui va arriver. Je ne vous fais pas de dessin, je suis nul en dessin. Et la pousse va continuer, et puis on va commencer à mettre la graine en terre. La graine est morte, la semence est là, d'accord ? Et des fois, on commence dans du coton, vous savez, avec un petit peu d'humidité, etc. Et puis, ben, ça va continuer à pousser. Et imaginez, vous prenez un gland qui est gros comme ça. Ça peut vous donner des chênes de plusieurs siècles. Vous avez déjà vu un chêne de plusieurs siècles ? Et c'est parti d'un gland. Alors, imaginez-vous spirituellement... Alors, je ne vais pas dire que vous êtes des glands, hein, c'est pas le but, hein, mais... Voilà. Mais imaginez-vous spirituellement que vous devenez un chêne centenaire. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Pourquoi ? Parce que tout dans la Bible nous montre que Dieu veut que du bien pour ta vie. Ouais. Ouais. Allez, je termine par ça. Regardez vos téléphones. Vous en faites quoi de cet appel ? Jésus appelle. Vous répondez, vous ne répondez pas. Je m'arrête là.